Et nous commençons l'émission ce soir avec l'appel de Françoise. Bonsoir à vous, Françoise.
Bonsoir, Sabine.
Soyez la bienvenue sur cette libre antenne.
Oui, je vous souhaite bonsoir et bonsoir aux auditeurs.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, Françoise ?
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux qu'il y a une semaine. Si je vous avais eu il y a une semaine, j'aurais été dans tous mes émois, bien que ce que j'ai à dire date de longtemps. Et je suis désolée, vous parliez de raconter une belle histoire d'amour. Moi, ça ne va pas être une belle histoire que je vais vous raconter, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a très longtemps.
Oui.
J'avais 20 ans, j'étais mariée, j'avais une petite fille de 2 ans et j'attendais un deuxième bébé.
Mm-hmm.
Et puis cette deuxième grossesse se passait très mal. Le docteur venait sans arrêt me consulter parce que ça n'allait pas. Et un jour, il est venu, il a pensé, peut-être à tort, peut-être à raison, j'en sais rien. Vous verrez où la suite de l'histoire, que j'en savais pas grand-chose. Que j'attendais des jumeaux. J'ai vu qu'il faisait signe à ma maman, parce que j'avais atterri chez ma maman. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui me soigne, qui soigne ma petite fille de 2 ans en même temps. J'avais montré avec ses doigts, 2. Il y avait une armoire à glace, j'avais vu dans la glace.
Juste, voilà. Pardon Françoise, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez situer l'année, l'époque ?
Oui, je vais vous situer l'année. Je vais vous dire que c'était en 1961.
D'accord.
Et donc exactement 60 ans. Il y a 60 ans. Oui, 60 ans, on va dire.
Tout ça pour qu'on comprenne bien qu'on n'avait pas tout le matériel et l'expérience qu'on a aujourd'hui en matière de grossesse.
Il n'y avait pas tout ce qu'il fallait.
Voilà, c'est ça.
Vous avez pu entendre un petit peu ce qu'il en était. On était loin, justement, d'avoir tout ce qui nous permet aujourd'hui de mettre des enfants au monde dans les meilleures conditions possibles ou de ne pas les mettre au monde, mais de ne pas laisser les choses s'envenimer comme elles se sont envenimées pour moi.
Oui.
Donc, la grossesse se déroulait toujours très mal. J'étais plus souvent couchée que debout. Je ne pouvais même plus m'occuper de ma petite fille, tellement j'étais fatiguée. Mais la grossesse, enfin, le bébé continuait de vivre. Quand le médecin venait, il me disait qu'il entendait son cœur, etc. Bon, à un moment donné, aux alentours du 5e mois, j'ai commencé à sentir bouger, etc. Et tout allait très mal. Alors, bien sûr, il avait été question, malgré tout, parce qu'on m'avait fait des tas d'analyses dont je n'ai jamais eu vraiment la réponse, que ce serait peut-être mieux de faire une interruption de grossesse. Mais à l'époque, il fallait avoir un médecin conseil et 4 médecins d'accord pour faire cette interruption de grossesse.
Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'il craignait à ce moment-là ?
Parce qu'il craignait une maladie qui se développait sur le bébé et qui était en train de m'emporter.
D'accord. Donc, danger pour la mère et l'enfant, quoi.
Voilà. Ouais. Le bébé se développait quand même, puisque j'avais un très gros ventre, une très grosse poitrine, mais j'étais très maigre.
Ouais.
Et donc, c'était ça, le danger. C'était de dire, il faut peut-être arrêter les frais, parce qu'elle ne va peut-être pas encore tenir 4 mois. Sauf que, disons qu'à tout cela, c'est pas facile de réunir tous ces toubibs d'accord pour faire cette interruption. À cette époque, ça posait sûrement gros problème. Si bien qu'à un moment donné, il a pu être question d'interrompre la grossesse. Et puis, un gynécologue que j'ai entendu parler avec un autre a dit pour maintenant, ça va peut-être faire encore 2 mois, 3 mois peut-être. Oui, bon, enfin, on verra bien, on va attendre. On peut attendre, voilà.
Mm-hmm.
Il a dit. Bon. Et puis, moi, j'ai attendu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? À 20 ans, on n'a pas la tchatche pour parler avec les toubibs et leur poser des tas de questions. Et puis, ils n'ont pas eu tort parce qu'effectivement, quand j'avais entendu cette conversation, c'était en décembre. Et je suis arrivée en février, que c'est en février que j'ai eu les douleurs, que j'étais prête à accoucher. J'étais un petit peu loin de mes 9 mois de grossesse, mais à 3 semaines peut-être.
Oui, j'allais vous demander quel était le terme prévu.
C'était prévu fin février, puis on était fin février, début mars, mais vous savez, à l'époque, c'est pareil.
Oui, c'était moins précis.
Bien sûr.
Hein, à la louche, quoi.
À la louche, exactement.
Oui.
Et donc, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'était un dimanche, ma maman a appelé le médecin qui est venu en catastrophe emmitouflée comme pas possible, pour me faire mon papier pour que je puisse être acceptée à la clinique pour accoucher. Il avait la fièvre, il avait la grippe, il avait 42 fièvres. J'ai été bien déçue parce qu'il m'avait dit, comme je m'angoissais quand même un peu, vu que c'était quand même pas clair cette affaire,
oui.
Il m'avait dit, t'inquiète, de toute façon, je serai avec toi et j'emmène ma caméra. Et j'ai vu avec, je ne me rappelle plus du nom du docteur qui m'a accouché, ça m'échappe aujourd'hui. J'ai 80 ans, hein. Forcément. Eh bien, il avait la grippe, il n'était pas question qu'il vienne avec moi. Hein. Et puis qu'il rentre dans une salle de...
Ben oui, bien sûr, c'est ce que je me disais en vous écoutant, là.
Voilà, donc du coup, je suis partie comme ça, toute seule, et puis bah, j'étais un peu déçue, mais bon, je suis arrivée à la clinique, les infirmières se sont occupées de moi, j'ai attendu le médecin accoucheur pendant je ne sais pas combien de temps, il devait arriver de l'extérieur, mais il avait un repas de famille, et puis c'était le dimanche. Et j'avais des douleurs, et ça poussait, et on me disait « poussez pas ». Ben, voilà.
Comme si on pouvait.
Comme si on pouvait, oui. Enfin, c'était des femmes qui me disaient ça, elles savaient certainement. Enfin bref, il est arrivé, j'ai à peine eu le temps de le voir, de l'entendre me parler, me dire « vous inquiétez pas, ça va aller, je suis là, tout va bien se passer ». Et puis, il a dit à une infirmière « mettez-lui le masque ». Bon, les douleurs ont repris et tout ça, et il a dit « bon, bah, mettez-lui le masque ». Donc à cette époque, souvent, on endormait les gens comme ça, un petit peu capoute là, un petit peu chaos avec le masque. Donc, après, je vais peut-être pas vous raconter ce qui s'est passé après, parce que j'en sais rien.
Mais oui.
Vu que je me suis endormie.
Ils vous ont shooté à ce moment-là, quand
même. Oui, ils m'ont shooté. Ouais. Peut-être plus, mais je ne sais pas. Ils m'ont shooté, je me suis réveillée dans la nuit, dans ma chambre, trempée de partout, j'étais pas bien. J'ai sonné, une infirmière est venue, elle m'a dit « vous inquiétez pas, on va vous changer votre lit et tout ça », ils m'ont changé mon lit. Et puis, au petit matin, un docteur est venu. Il s'est présenté comme étant l'anesthésiste. Je ne sais pas si j'avais été anesthésiée plus qu'avec le masque, j'en sais rien.
Vous ne l'aviez pas vu la veille, ce monsieur ?
Non, je ne l'ai pas vu. La veille, avec des infirmières et ce médecin accoucheur qui est arrivé en dernier. Et il me demande comment je vais, tout ça. Et puis je lui dis, puis je n'arrivais pas à dire ce que je voulais dire, quoi. Mais il n'y avait pas de berceau.
Et oui, le bébé...
Ça me semblait bizarre.
Ben oui, bien sûr.
Alors, il m'a dit, ben non, mais enfin, dit, si vous voulez, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Enfin, en tous les cas, je suis là, on verra ça dans la journée. Il dit, vous savez, là, il est encore très tôt le matin. Je dis, oui, mais enfin, j'espère que je l'aurai pour cet après-midi parce que ma maman va venir me voir. J'ai gardé ma petite fille, elle vient me voir. Alors, je pense qu'il ne m'a pas répondu, ou s'il ne m'a pas répondu, je ne l'ai pas entendu. Et puis, les infirmières sont revenues vers moi, et une des infirmières m'a dit « vous inquiétez pas, ma petite dame, je l'aurai cet après-midi, mon bébé ». Alors elle m'a dit « mais oui, vous inquiétez pas, il est au frigidaire ».
Quoi ?
Oui, madame.
Mais quelle horreur.
Il est au frigidaire. Voilà. Et j'ai attendu, et j'ai attendu. Et on m'a apporté mon repas. Et j'ai demandé si je pouvais voir le docteur, et j'ai demandé si je pouvais voir une infirmière, et j'ai demandé si on pouvait m'amener mon bébé, on m'a toujours envoyé promener. Moi, c'est pas mon boulot, moi je vous amène à manger. Allez, faut manger, madame. Oui, bon. J'ai mangé. Ma mère est arrivée, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'ai pas le bébé, mais apparemment, c'est bien ce qu'on craignait, quoi. Alors elle me dit, quoi ? J'ai pas le bébé, puis j'ai demandé, puis voilà ce qu'on m'a répondu. Que l'infirmière m'a dit. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense ? Elle m'a dit, ma mère est une femme très débrouillarde. Hein. Elle aurait abattu des cloisons pour passer. Et elle n'a pas réagi. Et puis, on a reparlé d'autres choses. Elle m'a fait parler d'autres choses. Et puis, au bout de 5-10 minutes, elle m'a dit, je m'en vais parce que ton père, il attend dans la voiture, il fait pas chaud, tu sais, oui, au mois de février, il fait pas chaud. Donc, il est parti. Et puis, peut-être une heure après, je sais pas exactement, une infirmière est venue et elle m'a... J'ai sonné, oui, c'est ça, j'ai sonné. Une infirmière est venue et puis, j'ai dit, j'ai pas eu mon bébé, ma maman, elle est repartie, puis Et elle m'a pas répondu, elle m'a dit, elle m'a pas répondu à ça du tout, elle m'a répondu de toute, elle m'a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a une ambulance qui va venir vous chercher, vous allez rentrer chez vous.
Oui, ils sont systématiquement
donc,
dans
l'évitement. Ça ne répondait toujours pas
oui,
à mes questions.
Ça. Ils sont systématiquement dans l'évitement, mais... quoi.
Comment ?
Ils sont systématiquement dans l'évitement.
Oui. Mmh. Ils évitaient de me parler, est-ce qu'ils avaient peur que je réagisse mal ? Est-ce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre ? J'en sais rien. Bon, je suis rentrée chez moi, enfin, chez ma maman. Mon chez-moi était en banlieue parisienne et ma maman était dans un petit village de campagne dans l'Oise.
Mais attendez Françoise, on vous demande de rentrer chez vous sans vous dire que le bébé est mort ou qu'il y a quelque chose de grave ?
Je pense qu'ils avaient dû le dire. Je pense que le dimanche, ma maman était là et mon mari aussi, pour m'amener le dimanche soir. Mmh. Et je pense que tard le soir, peut-être, quelqu'un a dû téléphoner pour avoir des nouvelles et ils ont dû leur dire.
Mais à vous.
Mais comme il n'y avait pas le téléphone chez maman, je suppose que c'est chez la voisine que ça s'est passé. Donc ils n'ont pas dû s'étendre. Je pense que ça doit être ma mère ou mon mari qui ont été chez la voisine pour téléphoner à la clinique pour savoir ce qui s'était passé et qu'on a dû leur dire. Et à partir de là, ils ont dû se dire, bah, après tout, c'est à la famille de la prévenir.
Ça paraît fou, hein, vraiment.
Oui, ça paraît fou. Ça paraît tellement fou qu'il y a eu des moments où je me demandais si je n'avais pas seulement rêvé. Et donc je suis rentrée, je suis arrivée chez maman, maman m'a dit, ben maintenant il va falloir que tu manges. Hein. Et puis alors ma petite fille aux anges et tout ça, ben, puis moi aussi aux anges, hein, de la retrouver, et l'espoir de pouvoir m'en occuper. Mais il fallait que je remonte la pente, hein. J'étais quand même pas encore sur mes jambes. Et voilà, et puis ben, quand même, j'avais quand même demandé à maman, quand elle était auprès de moi, la clinique, je lui avais dit, mais Jean-Pierre, il n'est pas venu avec toi. Quand elle m'avait dit, il faut que j'y aille parce que ton père, il attend dans la voiture, j'ai dit, mais Jean-Pierre n'est pas venu avec toi. Elle m'a répondu, Jean-Pierre, il est parti travailler. Jean-Pierre, c'était mon mari.
Oui, j'allais vous demander, justement.
Oui, donc le lundi matin, comme il travaillait et qu'il avait un travail très important chez IBM, le lundi matin, il est parti travailler parce que le travail, à l'époque, était très important. Il a 90 ans aujourd'hui, il vous redirait la même chose. Je n'ai aucun regret, mon rôle, c'était d'aller au boulot. Donc il est parti travailler, mais il est parti pour une semaine, parce qu'il ne revenait que toute la fin de semaine.
Mais à cette époque-là, on était très très loin du congé parental pour les hommes. Hein.
Voilà. Et puis
c'était pas cette génération. Ben oui, c'était pas cette génération-là.
Hein, et puis voilà. Et puis bon, bah, c'est comme ça. Donc je l'ai revu une semaine après. Autrement, vous dire, une semaine après, j'allais nettement mieux. Parce que j'avais bien mangé toute la semaine. J'avais repris des forces et puis peut-être le moral. Mais le moral, quand même, il ne s'est jamais guéri. Jamais. Et il a été d'autant plus agressé que lorsqu'il est arrivé à une période où on a eu le droit d'enterrer ses enfants, même ses embryons, qui ne sont pas encore à terme pour le fait. Par le fait, moi, j'ai eu très mal. Parce que mon enfant, je ne connais même pas son sexe. On ne m'a pas dit c'est une fille, c'est un garçon. Avec son histoire de frigidaire, elle m'a, j'ai eu qu'à le dire, réfrigéré elle.
Mais ça c'est un scénario de film d'horreur, votre histoire. Hein.
Oui. Oui, c'est un film d'horreur.
C'était il y a longtemps, certes, mais quand oui, même, comment peut-on oui. être à ce point-là inhumain ?
Inhumain. Je l'ai raconté à beaucoup de toubibs. Finalement, quand je raconte cette histoire-là, en règle générale, je la racontais plutôt dans des milieux médicaux, justement. Mmh. Parce que c'est tellement horrible de raconter ça comme ça que, oui, bien sûr, les gens, vous direz, ils penseraient peut-être, mais allez, cette pauvre femme.
C'est comme s'il y avait une chape de plomb qui s'était mise sur la tête de ce bébé dès qu'il est né, quoi.
Voilà. Alors, il est né. A-t-il crié ? J'en sais rien. Quel était son sexe ? J'en sais rien. Il n'a pas de prénom. Je ne l'ai pas vu. Personne ne l'a vu. Et voilà. Alors, je suis rentrée chez moi, parce que, ben, évidemment, au bout de 15 jours, j'ai dit à ma mère, bon, t'es bien gentille, mais moi, maintenant, je me sens forte, je rentre à la maison. Ça faisait déjà 4 mois que j'étais partie de chez moi, j'avais envie de rentrer.
Et votre petite fille, vous vous souvenez de comment elle a réagi, elle ?
Ben, elle, quand je voulais m'occuper d'elle, quand je prenais toutes mes forces, pour m'occuper d'elle à la place de maman, elle me repoussait. Non, je voulais la coiffer. Elle avait 3-4 cheveux bien raides. Je voulais la coiffer. Elle ne voulait pas. Non, mamie, elle me disait.
J'imagine qu'elle attendait que vous reveniez avec un petit frère ou une petite sœur.
Non, on ne lui avait pas dit.
Ah, vous ne l'avez pas dit. D'accord.
Non, on ne lui avait pas dit parce que justement, ça se présentait tellement mal qu'on ne lui avait pas dit. D'accord. Je ne lui avais pas dit. Alors, il faut savoir que j'étais tellement fatiguée pendant toute cette grossesse que très souvent, j'allais à la clinique, on me faisait des transfusions de sang. J'ai eu 7 transfusions de sang dans les derniers mois de la grossesse. Mmh. Et quand j'avais des transfusions de sang, je restais 3 jours à la clinique. Et on venait me chercher un soir, on me réveillait, il était 9h, 10h du soir, on me réveillait. On me mettait sur le brancard, on m'emmenait, je disais, vous m'emmenez où ? À la salle d'opération. Je disais, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont peut-être finalement décider de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Je ne savais plus quoi dire, quoi penser. Et j'arrivais là-bas, il y avait plusieurs personnes, et c'était des gynécologues de la ville qui venaient le soir après leur consultation pour m'ausculter, pour donner leur avis. Il y avait le médecin accoucheur qui était là, qui était en même temps le directeur de la clinique, et puis 2 ou 3 gynécos qui venaient. J'en ai vu à plusieurs reprises, quand j'allais là-bas, plusieurs reprises, il y a eu certains gynécos qui sont descendus comme ça pour m'examiner et vous parler à 20 ans.
Un peu comme si vous étiez un cas d'école, non ?
Oui, oui, mais sauf que j'avais 20 ans, que j'ai été élevée dans des années où on avait beaucoup de pudeur. Et que ces messieurs, bah, ils étaient là à discuter comme si je n'existais pas. Mmh. Et puis on me remettait sur le brancard, et puis on me ramenait dans ma chambre, et puis j'en savais pas plus. Je demandais aux filles qui me ramenaient ce qui c'était. C'est elles qui m'ont dit que c'était des gynécos. Mmh. Mais elles ne me disaient pas ce qu'ils avaient dit, hein, bien sûr. Mmh. J'ai quand même entendu une fois un gynéco qui disait à l'autre, non, à mon avis, il ne faudra plus qu'elle ait d'enfants.
Ne vous rendez compte ? Devant vous, en plus.
Oui, alors ça, j'ai eu très mal, parce que j'ai dit, bon, ça veut dire faudra plus qu'elle en ait. Donc, j'ai déjà pensé que ça voulait dire que celui-là, il vivrait pas.
Oui, en plus.
Et puis, je me suis dit, ça veut dire que j'ai une enfant, j'en aurai pas d'autre. Bon. Après, j'ai entendu aussi une fois dire, c'est sérieux, parce que la leucémie est pas loin.
Tout ça devant vous ?
Oui, et je savais ce que c'était qu'une leucémie.
Quelle barbarie.
Parce que j'avais une voisine qui avait été frappée de la leucémie, j'avais 15 ans. Et j'allais lui faire la lecture quand elle pouvait plus lire, tellement elle était fatiguée.
Oui.
Tellement elle était malade, cette fille. Donc voilà, tout ce que j'ai su, je suis rentrée chez moi. Et puis après, j'ai eu l'impression que tout le monde faisait comme s'il ne s'était rien passé.
Je crois que ce n'est pas une impression en vous écoutant. Hein. C'est que tout le monde a fait comme si ce n'était rien passé.
On ne m'en a plus jamais parlé.
Et personne ne s'est inquiété de savoir comment vous alliez, vous ?
Non, oui. Personne. J'avais qu'à serrer les dents et puis à marcher. Et à avancer, j'avais qu'à marcher, puis c'est tout, à vivre. Puis voilà. Alors j'allais au début, toutes les semaines, au laboratoire pour qu'on me fasse des prises de sang. J'allais chercher les résultats de cette prise de sang que j'emmenais au médecin. Mais le docteur qui me faisait la prise de sang au labo me disait « Oh, je suis désolée, Madame Lacroix, je vous en... » Pardon, excusez-moi, j'ai dit mon nom. « Je suis désolée, je vous en prends beaucoup, mais il faut que j'en envoie à Paris aussi. » Bon, j'avais su que c'était pour la recherche.
Ah.
Je prenais plus de sang pour la recherche. Mais j'ai jamais eu d'écho de cette recherche. Simplement, une fois, je suis arrivée... Alors, très souvent, au laboratoire, je pleurais, parce que lui me parlait, le docteur, tout en faisant la prise de sang. Il me demandait comment j'allais. Et puis, j'y allais avec mon petit bout de chou qui avait 2 ans et demi, 3 ans, et il me posait des questions. Et puis, il lui parlait à elle. Et ça est arrivé souvent que je pleurais.
Mais oui, pour une fois, vous aviez quelqu'un qui vous écoutait.
Oui. Et il me disait, mais bon, il faut essayer d'oublier tout ça. Je peux pas, parce que je sais même pas si j'aurai d'autres enfants. Et lui, il m'avait dit, oh, mais si, vous en aurez d'autres, vous êtes jeune, vous verrez, vous en aurez d'autres. Et puis un jour, je suis arrivée, et puis il avait un grand sourire. Alors, les prises de sang s'estompaient. Hein. Au début, c'était toutes les semaines, après tous les 15 jours, après, c'était plus que tous les mois. Et puis, ça a duré comme ça pendant un an, quand même. Hein. Et donc, la dernière prise de sang que j'ai faite, qui devait être un an après la naissance, à peu près, je ne me rappelle plus bien, mais certainement, je suis arrivée, il avait un sourire grand jusqu'aux oreilles. Et puis, il m'a dit, permettez que je vous fasse la bise. Je lui ai dit, pourquoi ? Il me dit, parce que vous l'aurez, votre bébé. Il dit, je suis sûre que vous l'aurez. L'année prochaine, vous aurez un bébé. Peut-être même cette année. Je lui ai dit, vous croyez ? Il dit, oui. Il dit, tous vos examens, depuis le temps qu'on vous fait des examens, il dit, toutes les analyses sont revenues bonnes, il n'y a pas eu de problème, rien ne s'est déclenché et tout. Il dit, vous inquiétez pas, vous l'aurez, votre bébé.
Et alors ?
Et alors, oui, je l'ai eu, puisque j'ai une fille qui est née au mois de janvier de l'année d'après.
Ah.
Elle n'est pas née dans la même année. Elle n'est pas née 1963. Lui me promettait un bébé pour 63. Donc celui que j'ai perdu, c'était en février 62. Et elle n'est pas née en 63. Elle est née en 64. C'est-à-dire qu'en 63, j'étais enceinte. Elle est née au mois de janvier.
D'accord.
Voilà. Et donc, un jour, je vais avec Isabelle, qui avait peut-être 2 ans. Il fallait la faire opérer des amygdales. Il fallait faire la petite prise de sang. Vous savez qu'on pique au bout du doigt, puis aux oreilles, là. Et c'est ce docteur-là qui lui a fait la prise de sang. Alors, elle était assise sur mes genoux. Et puis, il lui dit, tu en as de beaux yeux. C'est toutes les larmes que ta maman, elle a versées avant que tu arrives au monde. Si elle a des yeux bleus et puis des très grands yeux. Et bien sûr, dans la tête d'un bébé, des grands yeux bleus. Voilà.
C'est mignon.
C'est la belle histoire, c'est lui. Bon, j'ai quand même eu aussi une autre fille derrière. Hein. J'ai 3 enfants.
3 enfants au total, bon.
Oui. Enfin, justement, j'en ai parlé de ce problème-là. Un jour, j'étais à l'hôpital pour un problème que j'avais. Et j'avais en face de moi un médecin urologue. Et il me demande combien j'ai eu d'enfants. Et je lui dis 3. Puis non, excusez-moi, je devrais vous dire 4.
4, bah oui, bien sûr.
Et il me dit pourquoi 4. Et donc je lui explique ça. Il m'a fait parler. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, vous permettez que j'appelle mes infirmières et que vous leur racontiez ce que vous venez de me dire. Oh, bah, j'ai dit, ma foi, oui. Si elles veulent, je veux bien. Et il m'a fait raconter devant les infirmières qui ont pleuré et moi avec. Parce que de les voir pleurer, ça a attendri mon cœur et puis ça m'a fait voir à quel point c'était encore dur. Et il leur a dit, vous voyez, mesdames, quand je vous dis que je dois respecter ce que la loi m'oblige à faire, à savoir les interruptions volontaires de grossesse, et quand je vous dis que je ne les fais pas de bon cœur, cette dame, ça fait, à l'époque, ça faisait 50 ans, ça fait 50 ans qu'elle pleure le bébé qui n'est pas né.
Mmh.
Ouais. Mmh. Voilà mon histoire.
Plus jamais, voilà. Ça, hein, vraiment.
Ben non, plus jamais ça. Et au cimetière où mes parents sont enterrés, pas loin de leur tombe, il y a un bébé d'une grossesse de 5 mois qui est enterré. Et cette tombe, elle est... On ne pourrait pas penser que c'était un enfant qui n'a pas été viable. Mais parce que c'est... Bon, ils savent que c'est une fille, donc c'est une fille, effectivement. Puis il y a plein de choses comme si elle avait vécu, quoi.
Mais maintenant, ça se fait systématiquement?
Oui,
bien sûr.
Oui.
Et l'enfant a un prénom, il est dans le livret de famille aussi?
Oui, mais à cette époque, ça existait, l'histoire des enfants, ce que l'on disait, les enfants morts-nés.
Oui.
À savoir que même s'il n'a pas crié ce bébé, qu'il n'est pas crié parce qu'il n'a pas pu, parce que ses poumons ne sont pas ouverts, parce que j'en sais rien.
Il a existé.
Il a existé, donc normalement, il aurait dû être déclaré comme un enfant mort-né.
Mais vous êtes vraiment tombé sur des barbares à l'époque, hein.
Oui, je crois que je m'en suis remis. Moi je pense que j'ai un tort. C'est que du haut de mes 20 ans, je m'en suis remis au docteur qui me soignait en me disant, il sera là. Je n'ai pas de souci à me faire. Mais j'ai rien préparé dans ma tête.
Vous avez placé votre confiance en une seule... Oui, ça, vous avez placé votre confiance en une seule personne qui n'a pas été à la hauteur de ça, quoi.
Bah non, il ne pouvait pas, avec de la température, il ne pouvait pas être là. Avec 42 fièvres, il ne pouvait pas être là. Il est déjà venu vraiment dans un état pitoyable pour me faire mon papier, mais effectivement, c'est ce qui a été tout à fait dommageable. Et quand j'ai voulu vous appeler la fois où je me suis décidée à avoir envie de vous appeler, c'était le week-end aussi, et vous aviez eu une maman, justement, qui vous avait parlé d'un problème de grossesse de bébé, je crois, qui est décédée
tout
aussi à la naissance,
oui.
Ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait fait remonter des choses. Et tout de suite derrière, vous avez eu une autre personne qui se plaignait d'avoir des problèmes avec ses enfants et qui disait que de ce fait, quand elle avait un souci, maintenant qu'elle était plus âgée, qu'elle travaillait plus, que ceci, que cela, elle n'avait personne à qui se confier.
Mmh.
Et ces deux appels-là m'ont fait prendre conscience que je n'ai jamais eu personne à qui me confier. Je n'ai jamais eu des bras qui m'ont dit bah, « viens pleurer un peu sur mon épaule ». En ce qui concerne cette naissance, comme en ce qui concerne tous les autres problèmes que j'ai pu avoir avant cette histoire-là, et après malheureusement, parce que la vie est longue et les malheurs, j'en ai eu d'autres, mais personne ne m'a jamais proposé ses bras ou son épaule pour que je pleure. Par contre, beaucoup de gens sont venus pleurer sur la mienne.
Mmh. comme souvent. Est-ce que vous pensez, Françoise, que vous avez réussi quand même à faire le deuil de ce bébé ?
Non.
Non.
Non. Non. J'ai eu un médecin, un ami médecin, qui est décédé l'année dernière il a eu la Covid, à qui j'avais raconté. Parce que je vous dis, j'en parlais beaucoup dans le milieu médical. Je lui avais raconté et puis je lui avais dit que j'étais en recherche parce que je cherchais. Hein. Je cherchais à voir les archives de la clinique.
Oui, bien sûr.
Je dirais 15 ans à peu près, je cherche à avoir les archives de la clinique et je n'y arrivais pas. Et je lui en ai parlé et donc et il s'en est occupé. Et lui, il y a des portes qui sont ouvertes pour lui. Hein. Qui ne sont pas ouvertes pour moi, parce que moi, on m'a même répondu que je n'avais jamais mis les pieds dans cette clinique et que je n'avais pas mis un bébé au monde dans cette clinique.
Mais il y a de quoi devenir fou, hein ?
Oui, mais heureusement, je me suis empressée de leur envoyer une photocopie. J'avais gardé, quand on me faisait des transfusions de sang, j'avais une facture, parce que le sang, fallait le payer.
Oui.
Donc j'avais une facture pour le flacon de sang qu'ils avaient fait venir. Et donc, c'était bien mon... Mais ça prouvait bien que j'étais connue dans la clinique. Donc j'ai fait les photocopies de ces factures de flacons de sang. Et je leur ai renvoyé en leur disant, voyez, si je n'ai pas été dans votre clinique, j'ai quand même été pour des...
Ouais. Mais lui, ce médecin qui a ouvert des portes, qu'est-ce qu'il a trouvé derrière ? Est-ce qu'il y a eu du concret un petit peu plus pour vous ?
Le médecin qui...
Vous me dites qu'il a fait des recherches plus tard pour trouver...
Oui.
Qu'est-ce qu'il a découvert ?
Oui, mais bon, voilà, encore une fois... La vie a fait que je n'ai pas pu lui poser les questions et je ne sais pas si je dois considérer que c'est la preuve parce qu'il m'a expliqué des choses déjà par rapport à ce qui s'est passé. Alors, ce qui se serait passé, c'est qu'effectivement, j'aurais attendu des jumeaux, mais que dans certains cas, un des spermatozoïdes arrive avec trop peu de différence avec l'autre. Il n'arrive pas en même temps et avec trop peu de différence. Et donc, il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Ça, je l'ai déjà entendu dire. Je ne savais pas pourquoi, mais qu'il y avait des fois qu'il y en avait un qui se développait bien, puis l'autre qui ne se développait pas bien. Donc, il y en aurait eu un qui ne se serait pas bien développé. Mais comme ils étaient dans des enveloppes séparées, il serait resté dans son enveloppe. La meilleure preuve, c'est que je n'ai jamais perdu les os ni rien du tout. Il n'a pas été percé.
Mmh.
Il serait resté dans son enveloppe et le processus d'alimentation du bébé aurait continué. À savoir qu'il aurait continué à se nourrir dans le placenta. Et l'autre bébé qui, lui, allait bien, entre guillemets, il n'avait pas grand-chose. Parce que cet embryon qui s'est, je sais pas comment il s'est fait moi, mais à quel point il a pu vivre, j'en sais rien. Donc se nourrissait du placenta, dans le placenta, comme l'autre bébé. Et c'est pour ça que l'autre bébé n'a pas vécu.
Mais j'allais vous dire, Françoise, presque. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui est épouvantable, c'est comment ça s'est passé et tous ces non-dits.
Voilà.
Parce qu'après, il y a toujours forcément une explication. Mais la manière dont vous avez été traité, cette chape de plomb, ce silence et ce mépris pour vous,
oui.
c'est inadmissible, c'est horrible.
Oui.
C'est ça qui est le plus dur. Parce qu'après, les raisons médicales...
Mais ça pourra être l'objet d'un autre appel, Sabine, parce que le mépris pour moi, il a toujours été...
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose...
Il a toujours été, sauf quand je suis devenue un petit peu au-dessus de ça. Mais là, j'avais 20 ans, il y avait trop peu de temps que j'étais sortie de ce mépris que l'on a eu pour moi et pour ma vie.
Mmh.
Et je pense, surtout dans ma famille.
On sent bien que c'est une famille qui n'a absolument pas agi pour vous à ce moment-là.
Ah non, non.
Qui ne vous a pas...
Ce docteur là qui s'est chargé des recherches, un jour on était en réunion, la réunion se termine et puis il me donne une enveloppe et puis je lui dis c'est quoi ça ? Il me dit c'est pour toi. Il dit mais l'ouvre pas tout de suite, c'est pour toi. Puis ça a été plus fort que moi, il a fallu que je l'ouvre. Hein. Je me suis mis dans un petit coin puis j'ai ouvert. Puis je suis revenue vers lui puis je lui dis ça veut dire que ce serait mon bébé.
C'était
qui
quoi,
sait.
C'était quoi?
Une photo.
Une échographie ou une photo? Ah non, il n'y a pas d'échographie.
Ah non, non, une photo.
Une photo.
C'est une photo. Et alors, effectivement, sur cette photo, ben, il y a une masse à droite. Il y a le placenta entre cette masse. Enfin, c'est un petit peu... On ne voit pas bien, hein, bien sûr, c'est des photos un peu anciennes aussi. Il y a une masse. Et puis, il y a ce qui est le placenta. Et puis, il y a le bébé. Et là, si c'est le mien, c'est un petit garçon.
Qu'est-ce,
mais il est mort.
Qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette photo?
Le deuxième choc de ma vie.
Oui.
Parce que j'en avais déjà eu précédemment un choc, mais un choc de bonheur, j'avais eu avec une photo. Et là, je ne sais pas, je n'ai pas eu le bonheur, mais quand même, j'ai eu un choc heureux de me dire, enfin,
il existe,
c'est quelque chose.
Il a existé, oui.
C'est quelque chose.
Vous voyez, il y a Anne qui envoie un petit message. Alors, il y a beaucoup de messages de soutien pour vous, évidemment, Françoise, mais il y a Anne qui nous dit... Anne nous dit, ça fait maintenant 20 ou 30 ans que les sages-femmes font systématiquement une photo d'un enfant mort-né et qu'elles proposent ensuite la photo à la maman qui accepte ou pas de la voir.
Oui. Ouais.
Parce que c'est la première étape du deuil, c'est essentiel de passer par là.
Oui. Mais je vais vous dire quelque chose, Sabine, et je vais répondre à Anne. J'habitais un petit village, et dans ce petit village, il y avait malheureusement beaucoup d'enfants qui ne vivaient pas ou qui vivaient 2-3 jours. Ou 15 jours, et les mamans voulaient une photo du bébé. Et ma mère, qui était un petit peu la personne qui rendait service à tout le monde, qui savait, c'était elle qui savait faire les pansements, qui savait mettre le mercurochrome, qui savait soigner les gens dans le petit village où j'étais, tout petit hameau même. Quelquefois, elle était débordée. Et puis, bon, bah, les photos, elle allait faire des photos, elle trouvait ça inutile et elle envoyait presque balader les gens. Puis elle me disait, bah tiens, t'as qu'à y aller, toi, prends l'appareil photo, puis vas-y. J'ai fait moi-même des photos d'une petite fille, je me souviens que d'une, je sais pas si j'en ai fait d'autres, mais j'ai fait moi-même des photos d'une petite fille que la maman avait couchée sur son dessus de lit en satin rouge. Je revois le dessus de lit et je revois la petite fille, qui était un tout petit bébé de rien du tout, quoi. Je sais même pas si je devais avoir 15-16 ans. Je sais même pas si j'avais compris que c'était un bébé. Peut-être bien. Si, je savais que c'était un bébé, mais ça me ressemblait plutôt à être un baigneur, quoi.
Oui.
Une poupée, qu'autre chose. Mais je l'ai fait moi-même, oui, Anne, c'est vrai. Et c'est bien que maintenant, on fasse ça, parce qu'on n'a pas ce vide éternel et ce vide que l'on a vis-à-vis de tout le monde.
Bien sûr.
Je vais vous dire quelque chose d'horrible. Vous allez dire que c'est encore pire que tout. Et je me suis débrouillée pour que mon mari, qui m'a quittée il y a 35 ans, revienne maintenant qu'il est tout seul, que sa copine est décédée, etc., revienne vers nous et l'ait dans une résidence près de chez nous, là, pour que ses enfants puissent s'occuper de lui, puis même moi. Il a 90 ans.
Mmh.
Et voulant lui montrer cette photo, je l'ai amenée à lui parler, je me suis trouvée à vouloir lui parler de ça pour lui montrer cette photo. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Non, vous ne le savez pas, ben je vais vous le dire. Il m'a répondu, oh, si ça ne t'intéresse pas, oh, qu'est-ce que tu veux qu'on parle de ça? C'était qu'un bout de chair.
Oui, je craignais ce genre de réponse. C'est quelqu'un qui s'est barricadé complètement et qui ne s'est pas intéressé ni à vous ni à ce bébé. Quoi.
Oui.
Alors, avant que j'oublie, François, je ne sais pas si vous savez qu'il existe une association qui réunit tous les parents qui ont vécu ce que vous avez vécu. Alors, bien sûr, pas forcément dans l'horreur à ce point-là, mais tous les parents qui ont perdu des bébés. Ça s'appelle Naître et Vivre.
Ah non, je ne savais pas.
Et si vous avez envie de noter leur numéro de téléphone, parce que ce sont des gens qui organisent des groupes de parole, qui sont vraiment présents pour des gens qui ont vécu des situations aussi dramatiques que la vôtre.
Oui.
Alors si vous avez de quoi noter là maintenant?
Oui.
Alors ça s'appelle Naître et Vivre.
Oui.
Et vous pouvez les appeler au 01 47 23.
47-23-05-08.
05-08. Oui, 01-47-23-05-08, association Naître et Vivre.
Naître et Vivre.
Et ils ont vraiment l'habitude d'échanger, de prendre en charge des mamans qui ont perdu des enfants avant, pendant ou après l'accouchement.
Oui. Eh bien, vous voyez, en prenant conscience tout d'un coup, c'est vrai que beaucoup de gens nous écoutent et beaucoup de gens réagissent. Je voulais apporter quand même une précision. Parce que j'ai quand même su, ça c'était le médecin qui devait venir faire le film là, qui m'avait dit ça. Je lui avais dit, mais c'est quoi? Bah, c'est une maladie que tu as eue, on a eu peur que ce soit un cancer, on a eu peur de plein de choses. Mais c'était pas ça, bah, j'ai dit c'était quoi? Il m'a dit c'était une mole.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça s'écrit M-O-L-E, avec un petit chapeau sur le haut.
Oui.
Voilà.
Et c'est quoi?
Et c'est une maladie, c'est une maladie, c'est un problème, justement, qui se produit. Alors, quelquefois, il n'y a qu'un bébé. Mais il y a quand même quelque chose, cette maladie qui se développe et que le bébé est agressé par la maladie, qui se développe comme se développeraient des champignons.
Ouais, d'accord. Mais j'ose même pas imaginer dans quel état d'esprit vous avez abordé la grossesse d'après. Ça devait être 9 mois
oh là là.
De... Oui, c'est ça, d'angoisse,
oh là là.
D'angoisse quotidienne.
Pendant toute la grossesse, j'ai dû aller refaire ces fichus à l'analyse de sang.
Bien sûr, j'imagine.
Pour voir si ça se passait bien.
Ouais, bah oui.
Eh bien, je peux vous dire que j'avais froid dans le dos hein, quand j'allais chercher les résultats 2-3 jours après.
Mais oui.
J'avais peur, hein. J'avais peur. Et je n'osais pas dire autour de moi que j'attendais un bébé. Je n'osais pas dire. Hein,
mais je
parce
comprends.
Parce que j'avais très peur. Et quand elle est née, c'est vrai qu'elle n'était pas très belle. Elle était un peu rondouillarde. Elle avait une joue un peu... Elle était un peu bouffie, quoi. Mais je la trouvais très belle, bien sûr. Et quand mon mari est venu, je lui dis bah, « T'as pas regardé le bébé ?» Je lui dis « Bah regarde, si tu sais, elle est belle, hein ?» Il m'a dit « Oh bah non, elle est moche, comme tous les nouveaux-nés. Hein. » Bon, j'ai dit « Toi, décidément, tu feras toutes les gaffes possibles, je me suis dit en moi-même. »
Ah, il était parfait, votre mari, dis donc.
Ah oui, non, mais ça, il a jamais su dire des mots tendres, hein, des mots...
Est-ce que...
Pourtant, c'est quelqu'un qui est sensible, mais je crois que j'ai pas montré que j'allais mal. Je l'ai caché parce que je me disais, si je montre que je vais pas bien, ma petite fille, mon petit bout de chou de 2 ans, va pas aller bien. Mmh. Elle va le voir, elle va le sentir, elle. Ma maman va être préoccupée. Elle va pas vouloir que je rentre chez moi si elle voit que je vais pas bien. Tout ça, j'ai caché mon chagrin pour éviter que les autres ils en aient.
Il fallait
pour éviter que les autres se contrarient à mon sujet.
Il fallait être un bon petit soldat, quoi.
Voilà. Il fallait être un bon petit soldat. Il ne fallait surtout pas faire voir que ça faisait 5 mois que vous étiez là sur le lit à vous demander comment ça allait se passer, à pleurer parce que vous ne saviez pas si vous alliez vivre ou mourir, si vous alliez avoir la chance d'élever votre petite fille.
Oui.
Il fallait se cacher. Il ne fallait pas le faire voir.
Est-ce que vos filles connaissent cette histoire?
Comment?
Est-ce que vos filles connaissent cette histoire?
Oui. Elles connaissent cette histoire, mais... Elles n'aiment pas en parler, elles ne veulent pas que j'en parle. Je vois bien que quand j'en parle, ça ne les intéresse pas.
Là encore, c'est le silence. Quoi.
Oui. Ben, c'est surtout... C'est pareil, c'est parce qu'elles se disent...
Je ne suis pas sûre que ça ne les intéresse pas. Peut-être que vous êtes un peu dure, peut-être simplement elles ne savent pas quoi
oui,
en faire.
Oui, je ne pense pas que ça ne les intéresse pas, mais je pense qu'elles doivent se dire... Il ne faut pas qu'on flanche, parce que si on flanche, maman ne... Elle ne va pas aller bien.
Et puis voilà, elles ne savent pas quoi faire de ça, de cette violence, de cette dureté, de tout ce chagrin. Mmh. Je crois que pour elles, c'est juste trop. Quoi.
Oui, et puis il y a quand même une chose, c'est que quand je leur ai dit, elles étaient relativement jeunes.
Ah.
Je leur ai dit à toutes les trois en même temps. Et je l'ai dit avec des mots, pas aussi crus que j'utilise là. Hein. Je leur ai dit avec des mots quand même un peu mieux.
J'imagine.
Je ne leur ai pas montré...
J'imagine bien, oui.
La
violence.
La dureté de la vie à l'époque. À l'époque, les gens étaient durs les uns entre les autres. Un médecin, il ne s'apitoyait pas sur votre sort. C'était du marche ou crève. Et puis, je l'ai dit avec des mots, oui, appropriés. Mmh. Mais elles étaient déjà plus grandes. Je pense que la dernière devait avoir 5-6 ans. Et l'aînée devait avoir 10 ans. Parce que, l'aînée devait avoir 10 ans. Donc, je leur ai dit certainement mieux que ce que je vous le raconte là. Mais voyez, je leur ai pas dit que j'avais la photo. Hein. Si je l'ai dit une fois, devant une de mes filles, elle ne l'a pas relevée. Je ne sais même plus laquelle. Elle ne m'a pas dit, tiens, au fait, tu as une photo. Tu ne nous avais pas dit ou comment tu l'as eue.
Alors, vous savez, Françoise, je parle souvent sur cette antenne d'actes symboliques qui sont importants pour faire un deuil. Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous aimeriez faire un acte symbolique pour cet enfant ?
J'ai eu envie de le faire. J'ai même eu envie d'acheter un petit coin dans un cimetière. J'ai vu ça dans un cimetière dans l'Oise, justement dans la ville où il est né, ce bébé.
C'était quelle ville ?
Non, j'ai pas envie.
Vous
voulez
pas le dire, d'accord. Non, c'est juste parce que
je crois que j'en ai dit beaucoup déjà.
D'accord, je comprends.
Il y a des gens qui me connaissent, qui ont un doute.
C'est juste parce que je connais bien cette région, donc je me posais la question, mais peu importe.
Bon, c'est la ville la plus importante du département.
D'accord. Donc c'est ce petit coin.
Donc dans cette ville, j'ai eu l'occasion d'aller au cimetière plusieurs fois, parce que il y a des personnes que je connais qui sont enterrées, et il y a un petit coin justement pour les bébés, mais c'est pas des endroits où les bébés sont enterrés.
C'est symbolique, il y a un endroit où on pose une plante ou quelque chose. Oui.
Voilà, et donc il y a des petites choses. Et j'ai demandé justement à une personne qui a une fille enterrée là-bas. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que je pourrais... Ben, elle me dit, tu devrais essayer d'aller à la mairie et puis de demander si tu peux acheter une place. Mais malheureusement, vous savez, les années passent et puis moi, je ne marche pas bien et puis je conduis de moins en moins. Elle est là-bas, je suis à presque 100 km. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille à la mairie, il faut que je sois reçue, il faut qu'on me donne un bon renseignement. Il ne faut pas que j'y retourne 5-6 fois. Hein. Plus le temps passe, moins on a de possibilités. Puis je me dis, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Mais...
Et pourtant, c'est très important. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, et si c'est trop compliqué, ce que je comprends, faites autre chose. Allez, je ne sais pas, planter un arbre quelque part, allez acheter un petit nounours que vous enterrez, laissez un foulard s'envoler sur une rivière, quelque chose qui symboliquement laisse partir un peu cet enfant.
Oui.
Quel que soit ce qui vous vient à l'esprit, là, moi je vous dis ça un peu en vrac, mais après c'est votre histoire à vous.
Oui, oui.
Et ce qui vous vient à l'esprit, ça sera forcément ce qui sera bon pour vous. Mais c'est important de marquer ça, d'une manière ou d'une autre, symboliquement.
Oui. À un moment donné, j'ai fait une chose. Parce qu'à un moment donné, je me suis mis dans la tête que ça devait être une fille. Et on avait fait construire une petite maison au bord de la mer en Vendée. Et je lui ai dit, tiens, cette maison, j'ai envie de lui donner un nom. Mm-hmm. Puis je me suis dit, tiens, je vais l'appeler du prénom que j'aurais pu donner à mon bébé.
Oui.
Ils avaient été une fille. Et puis ça n'était... J'arrivais pas. Je dis, non, tout le monde va me demander pourquoi.
Ouais, ça aurait été compliqué.
J'ai donné ce nom à cette maison.
Et en l'occurrence...
Donc finalement, je l'ai appelé des initiales de mes enfants.
Mais en l'occurrence, vous ne savez même pas si c'était une fille ou un garçon.
Si ce monsieur, malheureusement, Edmond, est décédé...
Oui, c'était un garçon.
Et s'il était là, mon intention, c'était de lui demander si c'était le mien.
Oui.
Mais il paraît... Enfin, m'avait dit ce médecin qui m'a soigné, m'avait dit que c'était une maladie... C'était quelque chose d'extrêmement rare... Donc je pense pas qu'il a dû y en avoir d'autres, même dans la ville même.
Oui, je pense que ça. Enfin,
à la même époque.
C'était probablement le vôtre.
Donc je ne pense pas que ça puisse être quelque chose. Donc, je pense que c'était le. Oui. Et puis bon, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Eh bien, ça m'arrange de savoir que c'est le mien.
Ben oui, parce qu'il y a un départ, il y a quelque chose de concret dans tout ça finalement.
Oui.
Il y a une existence. Bon,
oui.
En tout cas, Françoise, vraiment, cet acte symbolique, là, vous avez tourné autour, mais vous ne l'avez pas fait.
Non.
Et je pense que ça serait vraiment important. Et n'hésitez surtout pas à appeler cette association, parce que je pense qu'ils vont eux aussi vous écouter, vous accompagner.
Oui,
vous allez pouvoir parler avec d'autres...
Faire un acte symbolique, mais toute seule, ça me...
Ben justement, vous allez...
Me sens trop seule.
Peut-être découvrir et rencontrer d'autres femmes qui ont vécu des situations similaires.
Oui.
Et je pense que
et effectivement, serait d'accord pour venir peut-être avec moi, ou même avec moi dans l'association, faire ou m'aider de loin, me disant tiens, fais ceci.
Parce que je pense que ce sont des situations tellement extrêmes et douloureuses qu'il n'y a que les gens qui les ont vécues qui peuvent vraiment vous comprendre.
Oui.
Et vraiment, ils sont là pour ça.
Il y a eu une dame sur Internet qui a parlé, qui a elle aussi perdu son premier bébé, c'était. Elle l'a perdu. Mais bon. Elle a été aussi un petit peu dans le brouillard, hein, pourtant, apparemment. Elle se battait pour savoir, mais on l'a laissée longtemps dans le brouillard. Mais elle se battait, puis son mari aussi. Hein, il tapait le poing sur la table, lui, apparemment. Mais
faites ça, Françoise, vraiment, appelez-les et dirigez-vous vers quelque chose de symbolique pour pouvoir marquer ce... Oui.
Vous me disiez qu'il y avait des gens qui s'étaient intéressés. Parmi les personnes qui ont envoyé des messages, il y en a peut-être.
Écoutez, s'il y a des gens qui ont vécu ça, on vous transmettra leurs coordonnées, effectivement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est plus des gens qui compatissent et qui vous embrassent.
Oui.
Mais si on a des mamans qui souhaitent parler avec vous, on vous transmettra leurs coordonnées. Et on va en rester là, Françoise, parce que les informations arrivent.
D'accord. Ça veut dire que je suis restée longtemps.
Oui, mais c'était important.
Mais je vous rappellerai, parce que j'ai plein d'autres choses qui me meurtrissent. Je suis une personne qui se bat pour vivre et survivre, mais je suis meurtrie.
Revenez quand vous voulez, Françoise. Je serai toujours là pour
vous.
Voilà.
Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous remercie de m'avoir écoutée. Et je remercie aussi tous les auditeurs et auditrices, peut-être plus particulièrement, quoi, qui se sont sentis concernés.
Et on vous transmettra des coordonnées, je vous promets, Françoise, si ça arrive.
Eh bien, je fais des grosses bises à tout le monde.
Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.